rare en temps universel. On retrouve Julien Coquelrohem pour le journal.
Et à la une, la fin de trois jours de sommet à Évian, les derniers échanges entre les dirigeants du G7 avant le tête-à-tête. Emmanuel Macron, Donald Trump, le président américain, invité à dîner ce soir au château de Versailles. Un sommet du G7 avec en toile de fond forcément la situation au Moyen-Orient. Israël continue de frapper le Liban malgré le cadre d'accord signé entre Washington et Téhéran. Reportage dans ce journal auprès de déplacés qui choisissent quand même de rentrer chez eux dans le sud du pays. Dans ce journal aussi, notre dossier consacré à une enquête exclusive de RFI, la voix et les récits des mères congolaises d'enfants métis enlevés pendant la colonisation. Et puis du foot, la Coupe du Monde et l'Argentine tenante du titre qui chavire. Entrée en lice réussie pour Lionel Messi et ses coéquipiers, vainqueurs 3-0 cette nuit face à l'Algérie.
Derniers échanges à Évian.
Avant la fin du sommet du G7 qui aura duré trois jours dans les Alpes françaises, après une journée chargée en dossiers internationaux hier, une réunion avec les dirigeants égyptiens, qatariens et émiriens pour évoquer la situation au Moyen-Orient, une rencontre avec Volodymyr Zelensky à l'issue de laquelle Donald Trump s'est dit prêt à tout faire pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président américain ouvre notamment la voie au rétablissement des sanctions contre le pétrole russe. Il reste en France, encore un peu pour un dîner ce soir au château de Versailles, à l'invitation d'Emmanuel Macron. Les deux hommes à nouveau ensemble sous les projecteurs. Valérie Gasse, le duo ou le duel Macron-Trump a été très observé à Évian.
Oui, l'un et l'autre du G7, Emmanuel Macron, l'autre est le principal invité, Donald Trump, et c'est autour d'eux que le sommet d'Évian a été chorégraphié, avec une première scène qui a pris des airs de rendez-vous manqué. Emmanuel Macron n'a pas accueilli Donald Trump en personne, pas de traitement de faveur pour le président américain, mais tout de même un entretien en tête-à-tête sans tarder où les deux dirigeants ont joué la partition d'une amitié sous conditions. En jeu, l'application de l'accord avec l'Iran et le sort de l'Ukraine dont Emmanuel Macron a fait une priorité. Leurs relations ont été placées cette fois-ci sous le signe de la négociation plus que de la congratulation, avec l'irruption d'un sujet de discorde, une nouvelle menace de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les vins français en rétorsion à la taxe sur les services numériques. Pas du goût d'Emmanuel Macron, décrit comme robuste sur ce sujet par une source diplomatique. L'ambiance sera-t-elle plus conviviale ce soir à Versailles, où les deux présidents vont se retrouver pour clore la séquence? Côté français, on parle d'un dîner assez sobre pour minimiser la faveur. Pour Donald Trump, c'est du lourd. Pas question pour lui de bouder son plaisir.
Valérie Gasse, envoyée spéciale de RFI à Évian. Merci beaucoup. Emmanuel Macron, Donald Trump et les dirigeants du G7 qui doivent avant cela conclure leurs échanges par une réunion sur l'intelligence artificielle en pleine prise de conscience, alors que la semaine dernière, l'administration Trump a ordonné à Anthropic de suspendre l'accès à ses deux modèles les plus puissants à tout ressortissant étranger. Hier, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé la rupture entre le renseignement français et l'entreprise américaine Palantir, dont le cofondateur Peter Thiel est réputé proche de Donald Trump.
Donald Trump qui critique publiquement la stratégie militaire d'Israël au Liban.
Trop de personnes ont été tués, dit le président américain, alors que le cadre d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran doit mettre fin notamment à la guerre au Liban. Les frappes israéliennes continuent pourtant. Elles ont tué 4 personnes hier et visé ce matin plusieurs villes du sud du pays. L'annonce des discussions pour la paix entre Washington et Téhéran a malgré tout poussé une partie des Libanais déplacés de force à rentrer chez eux. Mais ce retour rime encore avec prudence. Reportage à Nabatillé, Amélie David.
Devant la mosquée Hosseini, au cœur de Nabatillé, les secouristes de l'association des ambulances de Nabatillé nettoient les débris et distribuent des vivres aux déplacés. Mohamed Sleiman, l'un des porte-paroles, se dit soulagé.
Nous espérons que ce cessez-le-feu durera longtemps parce que, honnêtement, nous sommes épuisés. Et si Dieu le veut, cette guerre ne reviendra plus jamais. Bien sûr, nous sommes heureux aujourd'hui, malgré les énormes pertes que nous avons subies.
Hanan Hamadi nettoie le magasin de son père près du souk historique complètement détruit. Elle est arrivée le matin avec sa sœur et sa mère qui souhaitent rester à Nabatillé, mais la jeune femme a peur.
Je ne peux pas faire ça. Je ne supporte pas d'entendre des bombardements. Si j'entends des tirs ou des explosions, je redescendrai à Beyrouth et ma mère restera ici. Bien sûr que nous avons peur. J'espère, si Dieu le veut, que le cessez-le-feu tiendra. reviendra, mais il paraît fragile. Nous entendons encore des bombardements au loin. Il y a le drone au-dessus de nos têtes et cela nous inquiète à cause de tout ce qui s'est passé.
Sur les hauteurs de la ville se trouve l'hôpital Najdem Abouti. Le directeur médical Shafi Fouani reste pessimiste quant à la situation globale.
Ce n'est pas la première fois. Et nous voyons ce qui se passe à Gaza. Il y a toujours quotidiennement des attaques, des victimes et des blessés. Je pense donc que la même situation pourrait se reproduire ici. D'autant plus que, comme ils l'ont déclaré en Israël, ils resteront au Liban pendant longtemps.
Alors que les gens nettoyaient les décombres à Nabatieh, l'armée israélienne tentait toujours d'avancer plus en profondeur dans la région et de la bombarder. Amélie David, Nabatieh, RFI.
Et face aux frappes israéliennes qui continuent sur le Liban, l'armée iranienne menace d'une réponse sévère. Le cadre d'accord Washington-Téhéran doit être signé officiellement vendredi en Suisse. Le premier tour des négociations pour un accord final, notamment sur le nucléaire, devrait commencer dans la foulée, selon le chef de la diplomatie iranienne. Et en attendant, la situation s'améliore petit à petit dans le détroit d'Ormuz. Des pétroliers iraniens ont franchi hier pour la première fois la zone du blocus américain en vigueur depuis 2 mois.
À la une également ce matin, une enquête exclusive signée RFI.
Alors qu'il y a 3 semaines, la cour de cassation belge a rejeté le pourvoi de l'État belge et confirmé sa condamnation à des réparations pour l'enlèvement d'enfants métis pendant la colonisation du Congo. La parole de ces enfants émerge depuis quelques années, mais celle de leur mère est longtemps restée dans l'ombre. Et dans notre émission Grand Reportage aujourd'hui et demain, RFI vous raconte l'histoire de 13 jeunes filles devenues mères à l'époque du Congo belge, d'un enfant métis conçu avec un Européen. Elle n'avait parfois que 13, 14, 15 ans. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
C'est précisément cette parole, leur parole, que vous avez voulu recueillir.
Oui, alors elles sont rares encore à être encore en vie aujourd'hui. Elles ont entre 80 et 90 ans. Et parmi les témoignages qui m'ont marqué, il y a celui de Veneranda Sinandoukou. Aujourd'hui, elle a 86 ans et elle s'est retrouvée à vivre chez un médecin belge alors qu'elle n'avait que 14 ans en 1953.
Une voiture s'est arrêtée. À cette époque-là, nous avions peur des Blancs. Alors je me suis enfuie. Peu après, des policiers sont arrivés. Ils nous ont dit, c'est le Blanc qui nous envoie pour chercher cette jeune fille. Nous les avons suivis jusqu'à sa maison. Là, le Blanc a sorti 1000 francs baudouins, les billets de l'époque. Il les a donnés à mon grand-père. Et voilà, l'affaire était réglée.
Florence, dans votre enquête, on entend ces femmes témoigner de leur peur face à ces hommes blancs. Elles racontent aussi leur abandon, souvent brutal, lorsque le contrat du colon prenait fin ou lorsqu'il était muté.
Oui, dans ce Congo colonial, raciste et fondé, vous l'avez dit, sur la ségrégation, une mère africaine, seule, avec un enfant métis, courait un autre risque, celui de se voir retirer cet enfant par l'État, au motif qu'elle ne serait pas en mesure de lui donner une éducation jugée convenable selon les critères de l'administration coloniale. À Mouenéditou, j'ai pu rencontrer Marie Bibi Balouichi. Sa fille a été emmenée en Europe par son père, puis adoptée par une religieuse belge.
Je ne savais rien de cette femme. Je ne savais pas où était ma fille. Je n'avais aucune nouvelle. Je ne savais même pas si on prenait soin de mon enfant. Cette inquiétude me rongeait le cœur.
À ce moment-là, Marie Bibi est effacée de l'histoire de sa fille. Dans ce cas, il faudra plus de 40 ans pour qu'elle se retrouve et tente de renouer un lien. Ces femmes racontent finalement une colonisation qui ne gouvernait pas seulement des territoires, mais qui s'immisçait jusque dans les vies privées, les maternités et dans les liens les plus intimes.
Et c'est à entendre, Florence Maurice, merci. Dans votre enquête intitulée RDC, les mères oubliées de la colonisation, 2 épisodes dans notre émission Grand Reportage, aujourd'hui et demain à 10h. À 17h10, temps universel, et sur notre site RFI.fr.
C'est une première en Espagne, l'audition d'un ancien chef de gouvernement mis en examen pour trafic d'influence.
Ça n'était jamais arrivé, l'ancien Premier ministre José Luis Zapatero devant le juge. À partir d'aujourd'hui, il vient d'arriver au tribunal. Il est accusé de trafic d'influence et de blanchiment de capitaux, soupçonné d'avoir favorisé en échange d'argent le sauvetage d'une petite compagnie aérienne pendant la pandémie de Covid, à grand renfort de fonds publics. Zapatero n'est plus Premier ministre depuis 2011, mais avec ce procès, c'est aussi sa famille politique, le Parti Socialiste, toujours au pouvoir, qui se retrouve ébranlé, François Musso.
Le dossier José Luis Zapatero est plus explosif que jamais. Il est même devenu une arme à double tranchant. Ou bien dans ses déclarations, il donne du grain à moudre à l'opposition de droite, pour qui celui qui gouvernait l'Espagne entre 2004 et 2011 n'est que le symptôme d'un Parti Socialiste totalement corrompu, ou bien, d'un autre côté, son témoignage va accréditer son innocence et le fait que jamais il n'a été à la tête d'un trafic.
La Pour tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale. Là, vous n'avez qu'à porter plainte.
Et sinon, changez. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
Mise en boîte, check la mise en scène, remballe tes chrysanthèmes et jette ton anathème. T'aimes pas mes thèmes libres? toi. Si c'est pas ton délire, n'y va pas. Mais si tu passes la porte, t'apportes un peu de bonne vibe. Une paire de bonnes accordes, un peu de bonne taille. Laisse-toi escorter, on va pas t'escroquer. Check comme mon comic stripote, le beat up. Viens petite fille dans mon comic strip. Viens bouger les boutiques électroniques. Pique du hip hop qui rock, qui race. Falbala entre ex-fan des 60s. Sex comic striptease, tease à gogo. Easy come, easy go, tease la sono. Y'a la bande à Bono, Bonnie Clyde et Coco & Co. Pas de karaoké dans mon rat, c'est live et c'est chaud. On n'est pas chez les yéyés, rangez les yo-yo. Ici c'est gogo glam, zéro coco, patata yo-yo. Laisse papa you au papagayo. J'en suis pas gaga, tant que c'est ça pas joue, ça cache le bon goût. J'irai pas là-bas, j'reste cool sous le Panama. Savoure-moi Havana, Titi l'Armana en caleçon Armani. Sale manie, une sale maladie. L'art et la manière de bien ne rien dire. Viens petite fille dans mon comic strip. Viens bouger les boutiques électroniques.
102.4 FM.